Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est avec vous grâce au 3216, grâce également à l'application RMC, rubrique direct au studio. C'est Rémi Barré qui lit bien sûr tous vos messages. Rémi qui est avec Daniel Riolo, avec Emmanuel Dancourt, avec Laurent Dandrieux. Dans un instant, on parlera des violents incidents hier en marge du match Nice-Cologne. Faut-il interdire les déplacements de supporters? À 13h30, le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et on reviendra bien sûr sur le décès de la reine Elisabeth II. 13h50, ce sera le coup de cœur de la semaine. Et c'est un coup de cœur pour un bistrot ambulant, pour avoir des apéros dans plein de villages de l'est de la France. On vous expliquera tout ça. À 14h, un village breton qui veut repeupler son centre-ville en y installant des réfugiés politiques. Bonne ou mauvaise idée? 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Élise Dangean va revenir sur l'histoire de ce professeur étranger. Vous en avez parlé en début de semaine. Interdit de rentrée scolaire car il lui manquait un tout petit papier administratif. Eh bien, on reviendra sur ce cas. Il y a du nouveau. Et puis, on vous fera gagner des produits Apple.
Oui, des produits de la gamme Apple, effectivement, à gagner dans chacune de nos émissions toute cette semaine. L'un d'entre vous sera avec nous vers 14h40 à l'antenne et il remportera soit un iPad, soit une Apple Watch. Et à ce moment-là, c'est à vous de choisir. Soit vous gardez votre cadeau, soit vous le remettez en jeu, vous le perdez, mais vous pouvez tenter d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou le dernier iPhone, l'iPhone 14. Hier, on en a fait gagner un. Donc, pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Et on va revenir tout de suite sur les violences du jour. Ce sont celles qui ont éclaté en marge du match de Coupe d'Europe entre Nice et Cologne hier soir. Incident d'une extrême violence. Deux supporters ont été grièvement blessés. Le coup d'envoi du match a été reporté d'une heure. Mais que s'est-il vraiment passé, Rémi?
Eh bien, il s'agirait d'un enchaînement de défaillances. En tout cas, d'après la direction de l'OGC Nice, il y aurait d'abord eu un afflux inattendu de supporters allemands. Tous devaient être placés dans la tribune Ray, qui sert de parcage visiteurs. 7800 personnes étaient attendues, selon le club. Mais au final, ses supporters auraient été plus nombreux et parmi eux, ça c'est ce que dit le préfet des Alpes-Maritimes, 200 à 300 hooligans, dont une trentaine de supporters parisiens. Il s'agirait de membres des Supra Auteuil 91, officiellement dissous en 2010 et jumelés depuis longtemps au groupe d'ultra du FC Cologne. Au final, l'OGC Nice n'a pas pu communiquer le nombre de spectateurs dans le stade en raison, d'après le club, du passage en force des supporters au niveau du secteur réservé aux Allemands, car certains d'entre eux, encagoulés, ont commencé à enjamber les simples séparations en béton, puis ont traversé la tribune présidentielle avant d'aller se confronter aux premiers supporters niçois présents dans le stade. Et si le préfet des Alpes-Maritimes rappelle que ce matin que plus de 650 policiers et gendarmes et 600 stadiers étaient mobilisés pour cette rencontre, force est de constater que tous, stadiers comme forces de l'ordre, ont été complètement dépassés par la situation.
Alors, faut-il interdire les déplacements de supporters? C'est la question qu'on vous pose dans Estelle Midi. Je vais commencer, avant d'entendre Daniel sur ce sujet, je vais commencer avec vous, Emmanuel Dancourt.
Alors, je me suis un peu renseignée sur ce qui s'est passé. C'était très très intéressant d'écouter les grandes gueules ce matin parce que il y a un Niçois dans le groupe et qui racontait, qui racontait à Alain qu'en fait le stade de Nice, il était déjà très particulier dans la manière dont il était fait parce que toutes les tribunes sont accessibles les unes avec les autres.
Avec une coursive.
Avec une coursive. Et ça, normalement, ça devrait pas être. Donc ça, il y a déjà une géographie des lieux qui fait que ensuite on a 8000 supporters qui débarquent. La tribune pour accueillir les supporters étrangers, enfin de l'équipe d'en face n'est pas assez grande. Deuxième problème, on ne crée pas de fan zone. pourquoi on ne crée pas de fan zone, on décide de mettre le trop-plein dans une autre tribune. D'autre part, ça n'a pas commencé dans le stade, parce qu'on parle beaucoup du stade, mais en réalité, les incivilités, Christian Estrosi l'a dit très très vite, le maire de la ville de Nice, les incivilités ont commencé dès l'après-midi. Quand on voit des photos de la place Masséna à Nice, c'est juste hallucinant. Et pourquoi les forces de l'ordre, qui étaient très nombreuses, hein, parce que Nice, c'est 500 policiers déjà, rien que Nice, il y a des caméras, on sait que Nice est une ville équipée en caméras, il y a une brigade de CRS qui était là, il y a encore deux autres brigades qui étaient là, enfin il y avait trois unités de force mobile, donc ils étaient nombreux, t'as donné des chiffres, Rémi, ils étaient nombreux, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce que les hooligans, enfin les supporters, d'abord ils étaient là pour se battre, ils étaient là pour foutre le bordel, c'est des abrutis, c'est des imbéciles, et puis surtout ils étaient en tout petit groupe mobile.
Pas 8000 imbéciles.
Ils étaient beaucoup en tout petit groupe mobile et ils se sont répartis dans la ville.
Oui, c'est pas nouveau ça.
Compliqué. C'est pas nouveau. Et c'est pour ça que, à la question, faut-il faire les matchs à huis clos? Moi, j'aurais dit oui. Il aurait mieux fallu qu'on fasse le match à huis clos. Qui suivent ça depuis chez eux et basta, quoi.
Bon, par moment, faut prendre les choses en main. On joue plus dans des stades, alors. Ça sert à rien.
Mais il y a un problème avec le foot. Sérieux, il y a un problème avec les supporters de clous.
C'est interdire les déplacements des supporters.
Ça n'a rien à voir.
Ah, exactement. Bon, on peut faire les deux à la limite. Hein.
Mais non, tu vas pas empêcher des gens d'aller au stade parce que.
Eh ben, à ce compte-là, on interdit les supporters quand on sait. En plus, Cologne, ils ont fait leur mea culpa. Ils ont dit, on le savait. On sait qu'on a des ultras chez nous et on n'arrive pas à les gérer.
Comment tu veux faire? Tu peux prendre ta voiture aussi.
Donc c'est bien ça. C'est pour ça que
c'est en Europe.
C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger parce que
ils peuvent venir tout seul.
Daniel Riolo.
C'est pas le huis clos. Ça veut dire que personne ne vient.
Oui, je suis d'accord.
Ça n'a rien à voir. La question, c'est est-ce que tu veux interdire les déplacements de supporters qui sont généralement toujours émaillés d'incidents. C'est ça la question. Et là, tu réponds oui, interdisons les déplacements. Là, je comprends ce que tu dis. Et pas huis clos, ça veut rien dire.
Interdisons les déplacements et puis il va falloir faire très très vite parce que j'entendais qu'il y avait un autre match qui arrivait entre Francfort et Marseille. La semaine prochaine, voilà, dans le cadre de la Coupe d'Europe. Et là, il y a 15 000 supporters qui arrivent. On fait quoi?
Ça se passe pas toujours mal non plus.
Ça se passe souvent mal quand même. Moi qui ne m'intéresse pas au foot, je trouve que ça prend beaucoup de place dans l'actualité.
On en parle beaucoup, effectivement.
Moi, je n'ai pas l'impression d'entendre parler à chaque match quand même. Donc, je me dis que c'est quand même plutôt une exception qui est peut-être trop fréquente, mais quand même une exception. Après, moi, je ne suis pas tellement pour l'interdiction des déplacements de supporters parce que je pense que ça fait partie aussi du jeu du football, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait aussi des supporters de camps dans le stade. Moi, je pense que peut-être, mais ça, Daniel aura certainement son avis sur la question, c'est qu'il faudrait plutôt s'inspirer de l'exemple anglais, qui avait un gros problème de hooligan et qui apparemment les ont résolus dans des places à Gérald Darmanin.
Ah bah oui, mais tu payes 500 euros ta place, alors c'est sûr.
Oui, mais il y a aussi une politique à la fois législative de mesures punitives très sévères envers les gens qui foutaient le bordel, et gestion très fine de la part des clubs avec des places assises numérotées, des caméras partout pour bien repérer qui étaient les fouteurs de merde et pour les exclure des stades, les exclure à tel point qu'ils sont, si j'ai bien compris, obligés les soirs de match d'aller pointer dans un commissariat.
Mais là, attention, on est en train de mélanger. Pardonne-moi.
C'est un point de vue de non-spécialiste. Alors,
ce dont tu parles, c'est des problèmes dans les stades en général, ceux qui causaient des incidents. Là, on parle des déplacements.
C'est ça.
C'est pareil. Ça, effectivement, ça a été réglé comme tu dis. Il y a des interdictions de stade. Il y a l'identification du fauteur de trouble quand il est dans son stade. Pardon, je ne sais pas, moi, le Parisien ou le Marseillais qui est dans son stade, qui jette une bouteille, il est identifié, il est sanctionné. Oui,
mais les hooligans, anglais ayant été matés à domicile, ont moins foutre le bordel qu'avant.
Et c'est là qu'est le problème. Hier à Nice, la poignée de supporters qui se disent supporters du PSG, qui sont totalement indépendants par rapport au collectif Ultra Paris, à ceux qui vont au stade tout le temps. D'ailleurs, eux vont communiquer pour dire on n'a rien à voir avec ces gens-là, et notamment celui qui a pris un coup de couteau, celui qui sont des interdits de stade. C'est là qu'il faut mesurer. Donc la question, c'est simplement le déplacement. Le déplacement, c'est une question, honnêtement, si dans l'after on n'a pas traité de la question 50 fois, c'est le minimum. Le déplacement, c'est un vrai problème de la gestion de ce sport. On l'a vu, ça a donné d'autres excès au moment du Stade de France. Comment tu gères ça? Et là, il y a deux visions qui s'opposent. En faveur des déplacements de supporters, il y a d'abord énormément d'associations de supporters qui défendent l'idée qu'on a le droit d'aller et venir et d'aller supporter son équipe à l'extérieur. C'est défendu par beaucoup de sociologues, par des avocats, qui défendent cette cause-là et qui défendent les supporters à qui on va interdire les déplacements. Et il y a même un député de La République En Marche qui est très connu, Sacha Houlier, qu'on a beaucoup reçu dans l'émission, qui défend cette cause et qui a œuvré pour qu'on mette fin aux interdictions abusives que certains préfets ont pris pour se faciliter la tâche. Sauf que à chaque fois que tu as des incidents, et en Coupe d'Europe, il faut pas dire que c'est rare. C'est rare quand c'est aussi grave que ça. Mais très souvent, il y en a. Et les fameux Anglais qui ont tout réglé chez eux, très souvent, quand t'as un match de Coupe d'Europe avec, j'en sais rien, Tottenham ou Arsenal, qui doivent aller à Rome, qui doivent aller en Grèce et tout, t'auras toujours un bar qui va morfler, t'auras toujours des incidents. Ça arrive très fréquemment. Ça fait peut-être moins la une de l'actualité, mais c'est fréquent. Et donc, à cette vision qui est défendue de la liberté d'aller et venir, de la chose intrinsèque au football, du déplacement, t'as ceux qui vont dire très bêtement, et moi, j'ai toujours été entre les deux parce que j'avoue que j'ai du mal à me positionner. Prenons l'opinion publique. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, est-ce que, finalement, mobiliser des forces de l'ordre, envoyer des policiers, parce qu'on nous dit toujours qu'il n'y en avait pas assez, et il n'y en avait pas assez. Déjà qu'ils ont beaucoup de boulot. Dans la rue, avec tous les problèmes. Donc il faut pas 500, mais 1000 pour gérer un déplacement. Après tout, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est pas plus simple de dire, écoutez, vous envoyez pas les déplacements, vous envoyez pas vos supporters. On règle le problème, les gens vont au stade et il y a pas les supporters adverses et t'évites tous les incidents.
Et
ces deux visions-là, s'opposent depuis des années.
Et pendant ce temps-là, les forces de l'ordre font autre chose. Est-ce que toi, tu es pour l'interdiction des déplacements?
Il sait pas.
En fait, pour qu'il y en ait, il faut toujours tout prévoir.
Mais c'est impossible.
Un nombre de forces de l'ordre suffisant. Le préfet qui analyse. Parce que hier, quand ils disent que c'était imprévu, comme tu l'as dit, mais c'est pas vrai. Ouais. On savait. Beaucoup de gens dans le milieu des tribunes savaient qu'il y allait avoir de la merde.
Daniel, moi aussi, je peux. Hier, sur le match Nice-Cologne, je viens avec un maillot de Nice. Je peux très bien foutre la merde si j'ai envie.
Absolument.
Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est même pas une histoire de déplacement. C'est que n'importe qui aujourd'hui dans un stade, mais pas que les stades de foot. Alors, il se trouve que je ne sais pas pourquoi ça arrive que dans les stades de foot et jamais dans les stades de rugby. Enfin,
en tout cas, parce que c'est des cultures différentes.
Exactement. Mais si tu veux, n'importe qui, t'es pas obligé allemand pour aller dire on l'a bien vu là, c'est les supporters parisiens qui ont aussi mis le bordel.
Et l'année dernière à Marseille, il y avait les Hollandais au moment du match contre Feyenoord.
Et le couteau, il est rentré comment le couteau? Il y a eu un blessé par couteau, il est rentré comment le couteau?
Le préfet dit qu'il n'y a pas eu de défaillance de sécurité.
Le préfet dit qu'il n'y a pas eu de couteau.
Moi, ce qui me gêne quand même dans la thèse de l'interdiction, c'est que je comprends l'argument de dire que c'est des moyens de sécurité disproportionnés par rapport à l'importance du truc, mais c'est que on va, si on interdit tout le monde, on va encore pénaliser une majorité de gens tranquilles pour ne pas avoir de problème avec une minorité de crétins.
Et tu as raison.
Et ça, c'est un
problème.
C'est un vrai problème.
Et on est évidemment d'accord. Il y a Eric qui nous appelle de Cagnes-sur-Mer et qui était au stade hier, supporter de Nice. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle.
Alors, racontez-nous, vous étiez au stade hier, il s'est passé quoi? Vous avez vu quoi, Eric?
Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Je rentre en tribune présidentielle avec mes deux enfants. J'en ai un de 15 ans et j'en ai un de 11 ans. Pour protéger celui-là de 11 ans, parce que le grand s'est pris un coup de latte en passant par des supporters. Alors, je ne sais pas si c'était des supporters hooligans, si c'était des Parisiens, d'accord? Et j'ai pris un coup de latte, alors je ne pouvais pas laisser un pour protéger l'autre. Voilà, et ça, voilà, ça fait mal au cœur. Alors après, quand j'entends dire que il faut interdire, c'est pas les supporters niçois, hein, les supporters niçois, là, à ce moment-là, après, certains, quand ils sont vus agresser, comme moi, j'ai vu mon enfant se faire agresser, d'autres n'avaient peut-être pas d'enfant, ils ont riposté à l'agression. Et quand vous avez un enfant de 15 ans qui se prend un coup de latte dans la tête, croyez-moi que ça fait mal. Je me trouvais pas que ça s'appelle dans une tribune à risque. Hein. Je rentrais dans une tribune présidentielle.
Oui, donc normalement c'est des tribunes en plus sécurisées, bien sûr, Eric. Voilà. Mais vous l'avez senti venir? Je veux dire, ça c'était différent des autres soirs.
Oui, tout simplement parce que voilà, je suis chauffeur de taxi et la promenade des Anglais, elle a été bloquée chaussée nord. Alors ils ont pu bloquer le chaussée sud parce qu'il n'y a pas de voiture qui est garée sur le côté chaussée nord, le chaussée sud. Maintenant ils ont fait déambuler des supporters chaussée nord. Et ben en passant, ben ils détruisaient des véhicules qui étaient garés. Ça aussi c'est très bien.
Vous en voulez au pouvoir public aussi, Eric, parce que finalement ce que vous dites là, c'est que ils auraient dû prévoir. Voilà, on savait que les mecs étaient déjà bourrés en plus manifestement. Donc
on n'est pas capable en France à gérer des événements. Ça s'est vu au Stade de France. Ça se voit aujourd'hui à Nice. On n'est pas capable de gérer des événements d'une telle importance.
Vous n'avez pas tort. C'est terrible à dire, vous n'avez pas
Daniel,
tort.
Juste une question pour Daniel. Comment ça se fait que on peut interdire 150 supporters de Lorient, mais on peut autoriser 8000 supporters d'un club étranger à venir au stade? On parle de 8000, hein.
Mais c'est pas les mêmes instances, hein.
C'est pas les mêmes gens qui décident, en fait.
C'est pas les mêmes instances.
C'est pas les mêmes gens qui décident.
C'est l'UEFA d'un côté, la FFF.
L'UEFA va probablement sanctionner Nice pour un défaut d'organisation. Nice va dire, nous, on peut pas tout faire tout seul. On a besoin de la préfecture, on a besoin des forces de l'ordre. Et on a en Europe rarement interdit les déplacements. On le fait en France. Je sais pas moi. Un Saint-Étienne-Lyon où le préfet va dire, les Stéphanois, vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Et si on voit un maillot stéphanois dans Lyon le jour du match, le mec est arrêté. Voilà. Ce genre de choses-là, on l'a fait en France, mais c'était toujours extrêmement contesté. Pour l'histoire du couteau, c'est probablement venu d'un buffet. Enfin, tu sais, des loges, là. Ouais. Il y a des couverts qui traînent là.
Ouais,
donc, le préfet dit qu'il n'y avait pas de couteau. S'il y avait, il y avait couteau.
Oui, en loge, on a droit au couteau, aux coupes de champagne, on a droit à tout. Il n'y a aucun problème. Rémi Barré.
Je suis amateur de football, mais vraiment amateur lambda. Je ne vais jamais au stade, mais je me pose juste une question. Eric nous disait, il a senti venir. Il est avec ses deux enfants. Malgré tout, il est allé au stade.
Parce
qu'il estimait que.
Non, mais des fois, tu sens une ambiance électrique.
Et tu penses que tu vas être protégé, c'est ça?
Non, mais en fait, tu sens une ambiance électrique, mais t'as ton billet, et tu te dis, j'y vais. Tu sens des trucs. Enfin, je veux dire, moi, je vais souvent au parc. Il y a quelques années, franchement, t'arrivais au parc, t'avais un peu la boule au ventre. Là, je suis allée à PSG Juventus.
Ah, maintenant, au parc, c'est terminé.
Il avait dû promettre à ses enfants de les emmener aussi.
Ouais, mais là, la PSG Juventus, t'as pas un bruit dans la rue, tout était nickel. Voilà, mais en fait, tu sens que l'atmosphère, elle est pas comme d'hab. Mais en fait, tu te dis quand même que là, il est
oui, justement, que tu vas être protégé, c'est ça. Tu te dis, il y aura des policiers.
Rémi, ils vont se battre entre eux, c'est con. Et puis voilà,
c'est compliqué de dire à tes enfants, finalement, je ne vous emmène pas, contrairement
à ce que ça veut dire qu'hier, il y a vraiment une défaillance phénoménale.
D'autres ont fait demi-tour. Dans des interviews dans la presse ce matin, d'autres ont fait demi-tour qui arrivaient avec des enfants. Il y avait un papa qui témoignait avec son fils de 9 ans. Il a dit, je suis arrivé, j'ai vu des fumigènes, j'ai entendu le bruit, je suis reparti direct.
Mais oui, mais les fumigènes, un enfant là-dedans. PSG Juventus, typiquement, il y a toute une tribune qui a pris feu et c'était magnifique. Et voilà, je devrais faire
ça.
Mais tu vas pas rebrousser chemin en te disant parce que tu sais jamais. Bah si t'as 5-0 pour Nice, c'est un match exceptionnel et derrière tes mômes ils vont te dire quoi? Mais tu te rends compte? Tout ça parce que t'as senti que.
Et comment tu fais en fait pour empêcher les supporters de faire le déplacement? Alors tu dis si on voit un type avec un maillot du club, on l'arrête. Mais
tu fais pas de déplacement avec les associés.
Et s'ils viennent,
tu fais pas de déplacement en bus, par
mais
exemple.
S'ils viennent, ils ne viennent pas.
Sur un PSG Marseille par exemple ou un Marseille PSG, il y a eu énormément de déplacements de supporters, ils ne viennent pas.
D'accord.
Déjà parce que si tu te retrouves à 3, si tu veux, si t'es Marseillais au Parc des Princes, ça va pas très bien se passer. Et pareil, si t'es 3 Parisiens au Vélodrome, donc c'est pour ça que les associations.
C'est quand même un climat très particulier ce sport.
T'as pas ça ailleurs, hein.
Voilà. Alors, on est avec Mehdi. Mehdi, il est supporter du Paris Saint-Germain. Et hier, c'est vrai qu'il y a des supporters du Paris Saint-Germain, des supras d'Auteuil qui étaient interdits de stade. Et c'est un peu
association qui n'existe plus au Parc des Princes. Exactement. Depuis 2010.
Et qui ont été évidemment mêlés à ces incidents. Bonjour, Mehdi.
Bonjour. Donc, comme Daniel, faut préciser que les supras d'Auteuil n'existent plus, ne sont plus au Parc des Princes. Et que c'est pas des supporters actuels. Enfin. Ils supportent peut-être le PSG, mais ils sont pas du tout venus là pour du football, quoi. C'est vraiment une casquette qu'ils ont, mais
c'est ça.
Ils sont plutôt là pour la bagarre.
Voilà, c'est
donc, moi, je voulais intervenir parce que je suis contre l'interdiction des déplacements de supporters, puisque j'en ai fait pas mal en Europe et en France. Et j'ai été en Turquie, en Serbie, en Écosse, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, enfin un peu partout en Europe. Et effectivement, je trouve qu'il y a un gros problème d'organisation des pouvoirs publics, en fait, par rapport à, quand on compare justement avec l'étranger.
Vous voulez dire en France?
Oui, en France, oui.
Ok.
En comparant avec ce que j'ai pu vivre à l'étranger, j'ai fait le déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade il y a quelques années.
Bah, où c'est chaud, hein.
Où c'est très chaud, et où au match aller au Parc des Princes, c'était parti aussi en bagarre dans les rues, etc., près du parc. Et le match retour s'annonçait très chaud, et pourtant on a été escorté de l'aéroport par l'armée, par la police, jusqu'au stade. Alors c'est pas un déplacement de rêve parce qu'on veut profiter de la ville, voyager, etc. Mais ça a été escorté de A à Z. On est retourné, on n'a rien vu de la ville, on n'a pas pu croiser d'autres.
Ah mais le déplacement perd de sa saveur. Et comme je disais tout à l'heure, le problème c'est est-ce que l'opinion publique est prête à accepter, parce que ça a un coût tout ça, finalement des forces de l'ordre, de l'armée soient mobilisées pour 1000 supporters qui viennent dans une ville. On a le droit de se poser cette question aussi.
Peut-être sur des gros déplacements qui s'annoncent très tendus. Après,
là, c'était pas un gros déplacement. Nice-Cologne, franchement, c'est pas le match du siècle.
De ce que je connais du mouvement ultra et des mouvements de supporters, c'était Cologne, c'est une très grosse communauté d'ultra et voire de. Après, il y a aussi de hooligans derrière qui n'ont rien à voir avec la mouvance ultra, je tiens à préciser aussi.
Je veux dire, c'était pas une grosse affiche, c'est ça que je veux dire.
C'est pas une grosse affiche.
Mais c'est justement souvent dans ce genre d'affiche qu'il y a le plus de problèmes.
Oui.
c'est comme si vous faisiez un Nice Partizan Belgrade, quoi. C'était un match attendu comme chaud. Et donc, comme je vous disais, j'ai fait des déplacements bien chauds, bien tendus. On a été en Turquie à Istanbul, c'était pareil.
Il y a de l'ambiance là-bas. Hein.
Et pourtant, on n'était pas escorté par l'armée de A à Z. On a pu faire notre vie 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et ça s'est très bien passé, en fait. Même s'il y avait des menaces sur les réseaux sociaux, etc. Parce que il y a toujours du hooliganisme un petit peu partout. Et on prend souvent le modèle anglais en exemple, mais il y a toujours du hooliganisme chez eux, parce qu'on nous a proposé à plusieurs reprises, quand on est parti en Angleterre, des fights et tout ça. Donc, ils sont cachés, en fait, les hooligans anglais. Ils les ont...
Ah non, mais ils existent toujours, bien sûr.
Ils existent toujours.
Exactement.
Et vous les retrouverez en déplacement partout en Europe aussi.
Mais merci Mehdi en tout cas de nous avoir appelé supporter du Paris Saint-Germain, très posé Mehdi.
Et à Londres la veille, il y a eu des problèmes aussi, on l'a peu dit, on dit toujours, est-ce que c'est quoi la nature d'un incident? Après, il y avait Tottenham contre Marseille, les Marseillais se sont déplacés, il y a eu des incidents en tribune, et il y a eu des incidents même d'ordre politique, dont on a très très peu parlé, mais Tottenham est un club reconnu comme appartenant à la communauté juive à Londres. Il y a des supporters de l'OM, on a vu des images, qu'on fait des saluts nazis, qu'on insulté, qu'on fait des choses dégueulasses. Ça existe. Eux disent, nous on a pris plein de bouteilles sur la tronche, on a répondu, enfin. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées aussi. C'est très souvent ça.
Après, il y a aussi hier le problème de l'alcool, parce que manifestement les supporters allemands avaient commencé à boire très très tôt en ville. Au moment du
ça
Covid,
ça se fait sous alcool et sous drogue. Hein,
je suis d'accord. Mais sauf que Daniel, tu vois, au moment du Covid, par exemple, dès que tu rentrais dans une entreprise, un stade, etc., on te prenait ta température. Là, est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que à l'entrée du stade, t'es un éthylotest, tu souffles dans un ballon. Je veux dire, alors oui, ça a un coût, mais enfin, ça empêcherait certainement qu'il y ait quand même pas mal d'exactions, parce que quand t'es sobre, tu commets peut-être pas les mêmes gestes, les mêmes exactions, c'est souvent dehors
le problème.
Mais déjà,
à l'intérieur d'un stade, c'est rarissime. Comme hier soir, à l'intérieur, c'est rarissime. C'est bien là qu'on voit qu'il y a eu un énorme problème pour que les mecs rentrent dans le stade, se baladent de tribune comme ça. Il va y avoir une conférence de presse bientôt à 13h30. Honnêtement, si les Niçois viennent nous dire on a tout bien géré, il ne faudra pas se foutre de la gueule du monde. Des incidents à l'extérieur, dans les rues, les cafés, machins, il y en a très souvent.
Ils vont peut-être pas le dire, mais Darmanin.
À l'intérieur du stade, ça c'est rare quand même, hein, de cette façon-là quand même.
Alors, on est avec Olivier, qui nous appelle de Moselle. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et vous Olivier, vous en avez marre qu'on critique les supporters?
En fin de compte, oui, surtout par rapport au match de hier, en fin de compte, c'était des hooligans et clairement pas des supporters. Et je pense que même avec une interdiction, ces gens-là seraient venus et en fin de compte auraient fait peut-être des fights dans la ville, ailleurs, ou se seraient donné des rendez-vous pour le faire. En fin de compte, interdiction ou pas, je pense qu'il y aurait eu avec ce genre, en tout cas avec ce genre de hooligan, des problèmes dans tous les cas.
Mais Olivier, vous êtes pour ou contre l'interdiction des déplacements de supporters?
Clairement contre, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis surtout un fan de foot et j'adore me déplacer un peu partout où je peux pour aller voir des matchs de foot. Et en fin de compte, on est clair, quand on n'est pas assimilé à un club en particulier, on est de toute façon pénalisé avec, dans tous les cas. Je crois que c'était juste avant le Covid, l'année avant ou deux ans avant le Covid, où en France, on avait les préfets qui interdisaient à tout va tous les déplacements de supporters. La moindre petite chose, il y avait une interdiction du préfet, en fin de compte, directement. Et en fin de compte, c'était même pour des petits matchs, des matchs où où le club se déplaçait avec 100, 150 supporters. Et en fin de compte, vous aviez même pas la possibilité d'aller au match si vous étiez neutre. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous arriviez au stade, qui contrôlait l'identité ou autre, et qui voyait que vous veniez d'une autre, notre région, ou d'un autre secteur,
pays,
vous n'aviez pas accès au stade, en fin de compte.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu la double peine, évidemment. Mais je comprends votre propos, Olivier. Et de toute façon, c'est vrai que c'est très dur d'interdire les déplacements de supporters parce que, effectivement, là, on parle de hooligans, mais sur les 8000, je veux dire, ils étaient quoi? Ils étaient une centaine d'abrutis.
Non, mais ça suffit, franchement, à 100 contre 50.
Ah ouais, mais c'est horrible pour les 6900 autres, quoi.
Évidemment.
Et tu peux pas pénaliser.
Tous ceux qui veulent se déplacer, visiter la ville, se faire le match le soir, boire une bière. Parce qu'on oublie, mais il y a aussi une dimension économique, hein. Dans un centre-ville, il y a beaucoup de, tant qu'il n'y a pas de casse, tous les cafés et les restos sont ravis, hein. Vous avez 1000-2000 personnes qui arrivent. Ça fait du chiffre, hein, quand même.
Estelle, tu m'avais expliqué l'année dernière qu'on avait changé les horaires des matchs aussi avec les hooligans anglais. C'est bien ça que tu m'avais expliqué, que ça avait changé les choses.
Voilà.
Et là, on ne pourrait pas jouer à 11h du matin, il serait peut-être un peu moins bourré.
Alors,
il y a des solutions.
Le problème, ça va être les télés.
C'est la diffusion.
Il y a des matchs à 13h, il y a des matchs à 15h et à 17h en France. Effectivement, il y a plus de matchs.
Ça a changé les choses.
L'après-midi, ça te permet d'aller au stade en famille, en fait.
Voilà.
Parce qu'effectivement, ton gamin, tu vas plus l'amener un dimanche à 15h au stade qu'un dimanche à 21h, c'est sûr. Et puis, il y a souvent moins d'incidents. Enfin, je dis souvent, mais enfin, il y en a aussi, mais moins d'incidents quand il fait jour que quand il fait nuit. Mais enfin, hier, ça tombe mal à Nice, il faisait jour. Voilà. Donc, pour le coup, ça n'a absolument rien changé. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il interdire les déplacements de supporters, Rémi? Et c'est intéressant.
C'est très discuté, Daniel, mais une majorité de oui à 56%.
Oui, voilà. C'est normal.
Une courte majorité.
Parce que c'est la simplicité. Il dit, il se déplace pas, il n'y a pas de problème.
Ouais. Et ça laisse quand même une bonne ambiance dans le stade, parce que ça laisse quand même les supporters locaux.
Absolument.
Et ça permet de ne pas avoir du huis clos, c'est-à-dire un silence absolu. Et ça, c'est vraiment horrible.
Ça, c'est pire que tout.
Ouais, c'est affreux. Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. Et on reviendra évidemment sur le décès de la reine Elisabeth II. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Emmanuel Dancourt et Laurent Dandrieux. C'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va évidemment beaucoup parler du décès de la reine Elisabeth II dans ce zapping. On va commencer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. La mort d'Elisabeth II vous attriste-t-elle? Hier, en fin d'après-midi, la reine du Royaume-Uni, après 70 ans de règne, s'est éteinte dans son château de Balmoral. Émotion dans le monde entier, et particulièrement à Londres, où nos reporters ont recueilli les témoignages des habitants.
C'est juste un jour triste pour nous tous et nous n'avons connu qu'une seule reine. C'est une personne que nous avons toujours admirée. Je n'ai jamais été royaliste, donc je ne sais pas pourquoi je suis autant touchée par sa mort. Je réalise à quel point elle était importante pour notre stabilité.
C'était juste une personne merveilleuse. Mes parents avaient un immense respect pour elle. Elle a promis sa vie pour ce pays. Elle l'a dirigée avec beaucoup de respect.
C'est fou, je ne réalise pas encore, je crois. Je sais qu'elle était très âgée, mais c'est une des choses qu'on imagine ne jamais se produire. Je suis vraiment triste.
Voilà, tristesse à Londres, évidemment, au lendemain de la mort d'Elisabeth II. Est-ce que ce décès vous attriste, Laurent Dandrieux?
Oui, moi ça m'attriste. Ça m'attriste comme m'attriste le décès d'une personne qui a 96 ans et dont on savait évidemment qu'elle n'était pas éternelle. Mais disons que on l'a toujours connue, elle faisait partie de la famille, effectivement. Et puis elle incarne aussi une certaine conception du pouvoir, une certaine conception de la politique qu'on n'est pas sûr de retrouver un jour. C'est-à-dire qu'il y a il y avait effectivement dans sa manière d'exercer sa fonction un esprit de service, un oubli de soi, une dignité que je trouve assez incroyable voilà, qu'on se demande si ces vertus-là ne vont pas disparaître avec elle. Alors on espère les retrouver plus tard avec le prince William, parce que Charles, non, c'est pas que je m'en fous, mais c'est qu'il a été marqué aussi
par
l'évolution un peu people de la monarchie. C'est-à-dire qu'il a eu toutes ces histoires avec Diana et Camilla. Il a pas ce côté effectivement intouchable, icône qu'avait la reine Elisabeth. William, lui, a l'air de vouloir s'en tenir effectivement à une forme de sobriété plus traditionnelle, mais on a l'impression quand même que c'était effectivement un vestige un peu d'une autre époque. Mais moi, cette époque me plaisait bien parce qu'effectivement il y a là-dedans un esprit de service et puis une dignité que je trouve absolument impressionnante.
Alors c'est vrai que ça fait 24 heures à peu près que les chaînes info en France sont en boucle sur la mort d'Elisabeth II. Alors c'est vrai qu'en Angleterre on comprend, mais est-ce que nous en France on n'en fait pas un peu trop finalement?
Oh là là, mais tellement j'en peux déjà plus, moi je suis déjà fatiguée de ça. Franchement, c'est une dame qui a très bien vécu sa vie, qui en plus a eu un corps en bonne santé jusqu'au bout, qui est mort de sa belle mort. Voilà, en plus c'est sans doute pas l'heure des critiques, mais c'est quand même quelqu'un qui a été très très dur. Mais je vais m'arrêter là pour les critiques. Ah non, moi je suis déjà fatiguée ça. Et tu vois, la page historique dont tu parles, je l'entends, Laurent, mais il était peut-être justement temps que ça change. Après, ça arrive peut-être pas au bon moment, parce que l'Angleterre va pas très bien. Instabilité économique hallucinante. Ils viennent de changer de Premier ministre. Ils ont troqué la peste pour le choléra. Là, il y a la reine qui disparaît d'un seul coup. Donc, je comprends que les Anglais, ça rajoute encore
au deuil. Elle avait un travail symbolique.
Mais quand même, plus que symbolique. Elle avait quand même un rôle politique.
Quand la Grande-Bretagne a connu des difficultés, quelles que soient ses difficultés, elle a toujours été là et elle a toujours incarné la stabilité.
Mais maintenu l'unité. Elle résolvait.
Non, mais elle a toujours incarné le rassemblement du peuple.
Le repère.
Son
père avant elle. Parce que quand vous voyez par exemple l'excellent film sur Churchill qui s'appelle Les Heures Sombres, vous avez l'impression que Churchill a tenu à lui tout seul sur ses épaules le poids de la résistance à Hitler, eh ben, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas eu le soutien du roi. S'il n'avait pas eu le roi derrière lui, c'était impossible.
Absolument.
Et il y a dans cette, je ne pense pas qu'on en fait trop parce que c'est pas uniquement du people la fascination pour Elisabeth II. Il y a aussi une fascination que nous avons, nous Français, qui est un peuple toujours un peu en état de guerre civile, contre une figure monarchique qui incarne l'unité nationale au-dessus des divisions politiques.
Il n'est pas aimé, lui.
Et au-dessus des divisions électorales.
Moi, je te rejoins parce que Charles III, il est gaffeur. Déjà, il est beaucoup rattaché. En même temps, c'est quelqu'un qu'on a empêché d'épouser la femme qu'il aimait. Donc,
maintenant qu'il aura la couronne, ça va changer.
Voilà, exactement.
Voyons ce qu'il donne. Laissons-lui sa chance.
En tout cas, il y a ce côté au-dessus des partis qui l'a aussi.
Il l'a pas. C'est pas vrai. Il l'a pas.
On parlera de Charles III après.
D'accord.
Daniel, est-ce que ça vous a touché, vous, ce décès ?
Absolument. Oui, absolument. Pour moi, c'est une figure historique. Une personnalité comme ça qui a tout traversé, tout vu, tout connu. Je la voyais un peu comme une sorte de doyenne de notre monde. Et effectivement, ce côté incarnation de la nation du Royaume-Uni, parce que ça va au-delà de l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni et tout le Commonwealth. Je trouve que c'est important, nous, à chaque fois, qu'on le veuille ou non, hein, parce qu'on a beau jouer les républicains toujours en petite rébellion, on est dans le même temps toujours en train de fantasmer sur la figure ou la paternelle ou maternelle. On n'a pas l'homme au-dessus. D'ailleurs, à chaque fois qu'un président est élu dans la Ve République, on dit toujours qu'il y a un côté monarchique dans cette Ve République, comme si on rêvait d'un homme au-dessus des partis. D'ailleurs, à chaque fois qu'un président est élu, immédiatement, il dit « Ah, j'aimerais être au-dessus des partis », ce qui est rarement le cas, mais on fantasme toujours sur... Et d'ailleurs, le nom revient sans arrêt sur le général de Gaulle, qui incarnait un petit peu comme ça une figure tutélaire qui n'existe plus. D'ailleurs, à chaque fois, il y a ceux qui essayent de s'en réclamer. Donc, ça veut dire que, mine de rien, dans un État, c'est quelque chose d'important. Par exemple, je prends un pays que je connais bien en Italie où c'est différent parce qu'il y a le Premier ministre qui exerce le pouvoir et il y a le Président de la République. Eh bien, le Président de la République, il y a ceux qui ont traversé un peu, bah, comme le gars qui inaugure les écoles et les chrysanthèmes, les crèches, comme on disait à une époque, comme le mec de la 4e République chez nous. Mais il y a eu des figures importantes. Des présidents de la République importants, et l'Italie a toujours aimé se retrouver dans ce président-là. Eh bien, nous, en France, on a eu un petit problème quand même avec ça. C'est pour ça qu'on fantasme toujours sur De Gaulle. Donc, voir disparaître la reine, oui, ça m'a touché, et je comprends l'attachement et l'amour que les Anglais avaient pour leur reine.
Les grandes gueules ce matin, tiens, justement. La France a-t-elle besoin d'un roi ? En Europe, il existe encore 12 monarchies qui jouent un rôle symbolique et représentatif. C'est le cas, par exemple, de la Belgique, de l'Espagne, encore de la Suède. Mais pour l'ex-enseignante Barbara Lefebvre, la question ne se pose pas chez nous, puisque nous avons déjà un président roi. Écoutez.
La France a-t-elle besoin d'un roi, d'un monarque ? Ben là, nous te répondons non, puisqu'il y en a déjà un et qu'effectivement, la République gaulienne est déjà en soi une monarchie. Et d'ailleurs, on pourrait dire que notre dernier roi, c'était De Gaulle. Le problème, il est là aujourd'hui. Non, la France, elle n'a pas besoin d'un roi, puisqu'on en a déjà un. Et en plus, un roitelet, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'on a tout l'apparat, mais habillé dans les faux habits de la République, mais tout un apparat monarchique. Autour d'un personnage qui en réalité est sacré pendant 5 ans. Donc non, moi je suis pour qu'on abatte véritablement
comme absolu.
Mais je suis comme Étienne, je suis pour qu'on abatte définitivement la monarchie et ses restes en France.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes scandalisé.
Moi je suis monarchiste, donc moi personnellement je suis pour que
il en reste encore alors.
Moi je suis pour que le roi gouverne en plus.
Mais quel roi on aurait
Louis XX de Bourbon.
C'est
Louis XX de Bourbon l'héritier du trône.
Oui, sauf qu'on n'est pas sûr qu'il soit prêt.
La monarchie, on se fiche qu'il soit prêt ou pas.
Ah non.
Tu peux pas le destituer.
Ça, c'est une mauvaise image. Normalement, on te prépare. Là, en l'occurrence, si demain tu devais aller voir dans la lignée de ceux qui pourraient prétendre au trône, t'es pas sûr qu'il ait été préparé. En Angleterre, on est sûr qu'il y a une énorme préparation. Toute la vie est consacrée à ça.
Alors, je vous laisse terminer, Laurent.
Oui, en tout cas, moi, ça me paraît complètement faux de dire comme Barbara Lefebvre qu'on a un roi parce que on voit bien que l'onction du suffrage universel n'est pas du tout efficace. C'est-à-dire que vous êtes le président de ceux qui ont voté pour vous ceux qui n'ont pas voté pour vous, à l'issue d'une campagne électorale qui a souvent été violente, vous détestent.
Absolument.
Et donc, il n'y a pas en France cette incarnation de la nation dans une figure non partisane. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, De Gaulle, qui avait effectivement conçu la constitution de la Ve République comme un truc monarchique, ne voulait pas de l'élection du président au suffrage universel. Parce que d'abord c'était lui, que lui il considérait qu'il avait une légitimité historique, qu'il l'en dispensait.
Il l'a créé pour lui, elle était sur mesure pour lui.
Sauf qu'en fait, comme les suivants ne l'avaient pas, on a bien été obligé d'inventer ce système, mais du coup on rentre dans un système partisan où la moitié des Français ou les trois quarts détestent celui qui est censé incarner la nation, ce qui est un vrai problème.
En France, si on avait un roi, ce serait Louis XX de Bourbon, que j'ai l'occasion de rencontrer et d'interviewer. C'est l'héritier du trône, il n'est pas du tout prêt, il n'a surtout pas du tout envie. C'est quelqu'un qui vit au Venezuela, sa femme est vénézuélienne, il travaille dans une banque, il est numéro 2. Il n'a pas du tout envie. Il a sa petite famille, je crois qu'ils ont trois enfants. Il y a un bébé qui est né il y a quelques années. Il va très bien, il mène sa vie, ça va.
Il n'a pas du tout envie. D'Orléans aussi.
C'est vrai qu'il y a les deux écoles. Et il y a toujours une frange de royalistes en France qui espère qu'un jour, mais ça n'arrivera jamais, on a coupé la tête du roi.
Et elle est comment la deuxième école, Laurent?
C'est l'école
orléaniste. Les orléanistes.
Là, on a un prince tout à fait français qui, lui.
Je crois que vous êtes fan, là.
Parce que je refuse absolument de. Moi, je pense que si un jour la monarchie revient, ça se fera avec une nouvelle dynastie, c'est-à-dire qu'elle viendra.
Je vais m'en occuper.
J'ai ma théorie.
Ne bougez pas.
J'ai ma théorie. Elle reviendra. Si elle revient, ce sera forcément à l'issue d'une situation de crise très profonde, où tout simplement il y a un moment qui fera comme les Capétiens, il y aura le plus fort du moment qui tapera sur la table en disant maintenant je fais ma dynastie.
Non, mais dites-nous qu'on aille googliser quand même.
Non, je sais pas parce que c'est pas pour demain. Mais en revanche, je pense que l'idée de restaurer les anciennes familles est totalement démente. Ça, pour le coup, c'est que ça n'arrivera jamais.
Parce que vous avez dit qu'on parlait des Capétiens dans Estelle Midi.
Dans Estelle Midi.
Non, mais c'est extraordinaire. Les GG ce matin, la monarchie britannique a-t-elle influencé l'emploi de l'anglais dans le monde pendant près de 200 ans, le français était la langue de la diplomatie occidentale et parlé dans le monde entier. La reine Elisabeth II le parlait d'ailleurs parfaitement, mais force est de constater aujourd'hui que l'emploi de notre langue disparaît peu à peu au profit de l'anglais, comme le rappellent Étienne Lebigue et Barbara Lefebvre.
Ça correspond avec l'âge de la reine, c'est-à-dire que ça correspond à un âge où beaucoup en Espagne, en Italie, au Portugal, en Allemagne, on parlait français. Aujourd'hui, plus personne n'apprend le français parce que tout le monde apprend l'anglais et éventuellement le chinois, mais plus parce que la France ça sert à rien. Et même en Afrique où on nous raconte que dans les écoles on apprend le français, c'est faux. Dans les écoles, la deuxième langue c'est la langue anglaise. Il faut arrêter de se raconter du baratin et accepter une bonne fois pour toutes que la langue internationale aujourd'hui c'est l'anglais. Les jeunes, ils apprennent le français.
Et d'ailleurs, l'influence britannique est intéressante. Le Togo et le Gabon, en juin 2022, ont intégré le Commonwealth. Donc ça, c'est intéressant. Le Mozambique et le Rwanda aussi, qui pourtant n'ont jamais été des colonies.
C'était mieux avant, quoi, Daniel Riolo, finalement.
Mais l'influence de la France est en recul, mais est-ce que c'est une découverte?
Non, mais peut-être que s'il y avait le capétien dont nous parle Laurent Dandrieux, peut-être qu'on y reviendrait. Mais ça pose problème, ça, pour vous, justement, que le français ait été déclassé, Emmanuel Dancourt?
En fait, ça s'est joué il y a très très longtemps, et ça, on le sait pas forcément. Et si j'avais pas étudié aux États-Unis, je l'aurais jamais su. Mais quand les États-Unis d'Amérique se sont formés, il y avait pas encore tout l'Ouest, c'était toute la côte Est. Il y a eu un vote pour savoir si ces pays allaient parler français ou anglais. Et à une voix près, on a perdu les Français et ils ont décidé qu'on parlerait anglais. Et là, on est à la fin du 19e siècle. Ça s'est déjà joué à ce moment-là. Le déclin de la France s'est joué à ce moment-là. Après, le français était la langue diplomatique, mais ça s'est beaucoup perdu parce qu'on a une langue difficile et que le français est une langue facile avec peu de règles. Donc ça s'est perdu au fur et à mesure. Nous, on est en plus très très accrochés à notre langue qu'on n'a pas très très envie de réformer, donc on ne la rend pas accessible aux étrangers. Et au fur et à mesure, après, il y a aussi l'état économique de la France qui a été une puissance mondiale, et dans les études de Ernst & Young, on n'en finit plus de reculer pour les années qui viennent. Il y a même des anciens pays pauvres qui nous passent devant, comme le Brésil. Donc voilà, on est en recul de toute façon sur tout, il n'y a pas de doute. Il n'y a que nous pour croire encore qu'on existe. On ne parle pas de nous dans le monde.
Paradoxalement,
on ne parle pas de nous dans le monde, je vous assure.
Paradoxalement, les élites italiennes et anglaises parlent beaucoup mieux français que les élites françaises ne parlent l'anglais. Le niveau d'anglais des élites françaises est absolument catastrophique.
Allez, dans un instant, ce sera le coup de cœur de la semaine. Et c'est un coup de cœur pour un bistrot ambulant. C'est un food truck qui se déplace de village en village pour recréer du lien social grâce aux apéros. On vous explique ça dans un instant. Et puis, à 14h, ce sera l'histoire du jour. Un village breton qui veut repeupler son centre-ville en y installant des réfugiés politiques. Bonne ou mauvaise idée? En tout cas, Éric Zemmour est contre. Il appelle à manifester contre ce projet. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes vendredi et le vendredi, c'est le coup de cœur de la semaine. C'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le coup de cœur de la semaine.
Et le coup de cœur de la semaine, il est pour un concept insolite, un bistrot ambulant qui sillonne des villages de l'Est de la France pour recréer du lien social grâce à l'apéro. Et Clément Nico est avec nous, c'est lui qui a eu l'idée de ce food truck un peu spécial. Bonjour Clément.
Bonjour Estelle.
Eh ben merci d'être avec nous dans Estelle Midi, hein. Vous êtes notre coup de cœur de la semaine. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce camion ambulant?
C'est hyper simple. C'est-à-dire que de base, je voulais créer un bar à concept sur Strasbourg à base de produits locaux. Et pour trouver ces produits locaux, j'ai dû traverser plein de villages alsaciens. Et c'est en traversant ces villages que je me suis dit qu'il n'y avait plus de bar bistrot dans ces petits villages. Et ce projet de base n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Et je me suis dit qu'au lieu de faire un bar entre quatre murs, j'allais le faire sur quatre roues. Et voilà, j'ai lancé le bistrot de village le 1er août dernier en sillonnant 8 villages alsaciens.
Alors Clément, racontez-nous comment vous faites, vous arrivez à quelle heure, vous installez des tables, comment ça se passe?
C'est ça, en fait, j'arrive sur le coup des 16h-16h30.
Ah, c'est tôt pour l'apéro quand même.
Ouais, c'est un peu tôt, mais bon, en Alsace, on est des bons vivants, donc on commence plus tôt que prévu. Et en fait, je déploie ma terrasse mobile d'une trentaine de places, qui est dans mon camion, je la déplie, puis ensuite, les premiers clients arrivent souvent vers 17h. Et c'est parti jusqu'à 21h30, 22h, même si là, en ce moment, le soleil se couche un peu plus tard, donc un peu plus tôt.
Oui.
Donc, c'est plutôt vers 21h pour l'instant.
Et ça marche fort, c'est-à-dire que les gens sont au courant de ce concept et maintenant ils viennent, ils savent que vous arrivez à 16h, effectivement, ils sont là à 17h jusqu'à 21h. Voilà, vous créez l'événement dans les villages, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. Là, sur le premier mois d'activité, par moment, il y avait plus de 100 personnes dans chaque village.
Ah oui.
En sachant que c'est des villages entre 450 et 1500 habitants. Donc par moment, il y a plus de 20% du village qui se regroupe sur la place principale, généralement en face de l'église ou de l'école, pour aller à l'apéro. Donc c'est assez fou l'engouement qui est généré.
Et qui sont vos clients, le portrait robot de vos clients finalement, Clément?
Il n'y a pas vraiment de portrait robot, ça peut être la famille avec des enfants en bas âge qui viennent prendre l'apéro en famille, ça peut être des seniors plus qui viennent discuter du bon vieux temps avec une bière à la main, ça peut être des jeunes actifs qui n'habitent pas forcément à la ville mais plus dans des petits villages qui viennent aussi pour un coup après le travail. Donc franchement, c'est tous les Français de 7 à 77 ans qui viennent. C'est pas vraiment pour ça robot, quoi.
Il faut venir chez moi, hein.
Voilà, Emmanuel Dancourt, elle habite près de Dijon, un petit village, etc. Ah ouais. Ça vous plairait, ça, ce concept, Emmanuel?
Ah, mais j'adorais. Non, alors c'est un village où il y a strictement rien. Il y avait une épicerie qui faisait bistrot qui a fermé quand Nini est morte, pour tout vous dire. Et non, faut aller à 5 km. Mais alors moi, j'adorais parce qu'on est un village qui s'entend très très bien, qui est très soudé. On fait beaucoup beaucoup d'activités. Il y a plein de gens qui veulent venir habiter chez nous parce que c'est extrêmement vivant et
mais
très sympa. Mais il y a pas de bistrot. Et moi, j'adorerais vous voir débarquer sur la place du village. Je peux vous assurer, il y aura peut-être pas 140 habitants, mais il y en aura quand même beaucoup. On sera à peu près 90. Hein. Si vous venez nous voir, ça va être sympa. Il y aura de la musique, ça va chanter, ça va danser, ça va être trop trop bien.
C'est déjà, c'est top, hein, 90 personnes, c'est fou. Non, après l'idée, c'est que ça continue à prospérer comme ça. L'idée, c'est de développer le concept partout en France, dans plein de petits villages.
Commencez par la Bourgogne.
Ouais, bon, en plus, j'ai un peu de famille par là-bas, donc.
Mais non.
Je connais bien le coin.
Venez, ça va. Vous
appelez
sur Instagram,
aussi.
Là. On va... Non, mais, Clément Nico, justement, est-ce que vous pensez à faire d'autres food trucks et finalement faire une franchise avec votre idée?
Ah, bah oui.
Ça, c'est à moyen long terme. Oui, c'est l'idée. Après, là, j'ai un mois de recul sur mon activité, donc, j'ai pas forcément envie de mettre la chaise avant les bœufs et j'attends de voir un petit peu comment se pérennise la chose, notamment en passant l'hiver. Et on fera le point peut-être l'été prochain pour voir ce qu'il en est, mais déjà profiter de ce camion-là et voir comment j'arrive à le faire tourner.
Elles sont à combien vos consos, Clément? Le café, il y a combien?
Comme dans un bistrot classique, hein, 1,50 l'expresso.
Ah, mais ça, c'est pas un bistrot classique parisien, donc ça c'est très bien.
Oui. Je viens de Paris.
Et vous ferez du vin chaud l'hiver, hein?
Et tout à fait, du vin chaud, de la bière de Noël. On adapte la carte aux saisons.
Eh ben écoutez, c'est super. En tout cas, vous étiez notre coup de cœur de la semaine. Clément Nico, un food truck ambulant pour recréer du lien dans des villages grâce à l'apéro. Et bravo pour cette initiative. Et parce que manifestement, ça marche très fort. Et puis, il devrait y avoir d'autres food trucks comme ça qui vont se monter parce que.
Plus très food, hein. C'est drink.
Ouais, mais il y a quand même un peu de la food.
Moi, je préfère bistrot. Il y a quand même un peu de food. Même, hein. C'est bien.
Oh bah, bistrot, s'il n'y en a pas.
Il n'y en a pas dans
bistrot
le village.
Bistrot ambulant, pardon.
Si vous voulez, oui.
C'est sur le.
Excusez-moi de
défendre le français.
Non, mais là où il a raison, il pourrait s'appeler.
bistrot ambulant.
Mais c'est comme ça qu'il s'appelle, en fait. C'est moi qui ai dit bistrot.
C'est Estelle qui est complètement anglicisée dans cette tête.
Ah, ça, j'avais pas compris, par exemple.
Oui,
bah,
c'est sur le concept. Ambulant. C'est sur le concept toi qui du food Estelle, truck. Attention. C'est ça qu'elle voulait dire. Oui, mais parce qu'il y a quand même un peu de nourriture. Alors, j'ai... Bon. Enfin, bon, bref, toujours est-il que ce concept était notre couture de la semaine et que c'est super. Voilà, on remercie Clément Nico d'avoir été avec nous. Bah, tiens, on parlera d'un autre village dans un instant. C'est un village de Bretagne, le village de Calac, qui veut repeupler son centre-ville en incendiant.
C'est à côté de chez toi, ça, hein?
C'est dans les Côtes d'Armor, tout à fait. En y installant des réfugiés politiques. Autant vous dire que cette initiative fait polémique. Ah oui. Bonne ou mauvaise idée, dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.